Le comte de Lille, Dianora. Le récit suivant appartient à un obscur chroniqueur des faits et gestes, d'Antelminelli Castruccio, seigneur de Luc. Nous le reproduisons dans sa forme naïve et sans développement. Vers la fin du XIIIe siècle, tandis que Rodolphe tenait les rênes de l'Empire et que le Saint-Siège vaquait par la mort de Nicolas III, Luc était une des villes les plus anciennes et les plus renommées de la Toscane, après Florence et Pise. La République florentine l'emportait en éclat et en puissance, et Pise, autant par le souvenir de sa gloire passée que par cet air superbe que conservent toujours les grandeurs déçues, mais l'esprit actif et aventureux des Lucquois, l'étendue de leur commerce et l'amitié de l'empereur, donnait à leur ville une célébrité qu'elle allait bientôt porter au plus haut point sous la domination de Castruccio. Dans cette cité de gentilshommes marchands et belliqueux, épithète qui d'ordinaire ne voit point de compagnie, vivait en 1279 une jeune fille de haute naissance nommée Dianora de Castracani. Ses parents étaient morts durant sa première jeunesse. Elle habitait, sous la garde d'une sœur aînée de son père, une grande maison de sombre apparence dans la rue Saint-Benoît de Postella, non loin de l'église Saint-Martin de Luc. Mais comme elle joignait à une beauté attendrissante les plus belles manières du monde, son nom était dans toutes les bouches et l'amour de sa personne dans tous les cœurs. Parmi les jeunes cavaliers qui tamponnaient sur ses pas aux églises et aux promenades, on distinguait surtout deux gentilshommes des mieux faits et des plus considérés de Luc. L'un s'appelait Bonaccorso de Cerani, l'autre Pierre de Puccinelli, appartenait à une famille aussi noble, quoique moins riche. Tous deux étaient jeunes encore, d'une tournure martiale, fort enviés des hommes et aimés des dames. Mais Bonaccorso était veuf. C'est pourquoi le bruit public disait que Puccinelli lui était préféré. Certes, ce n'était en apparence qu'une vague de rumeurs, car de toutes les jeunes filles nobles de Luc, nulle ne vivait dans une réserve plus chaste que Dianora. Sa tante était une femme d'un âge avancé, grandement pieuse et sévère, qui bien rarement quittait les côtés de sa nièce et suivait l'ordinaire d'un œil vigilant ses moindres pas. Cependant, le bruit public disait la vérité sans trop le savoir. Dianora et Puccinelli s'aimaient et s'étaient confiés leur mutuelle passion. De son côté, Bonaccorso avait gagné le cœur de Madame Catherine de Castracani par une suite de flatteuses attentions si chères aux dames âgées quand elles leur viennent de jeunes cavaliers. De sorte que Bonaccorso et Puccinelli, qui étaient amis, se cachant les ressources diverses qu'ils se ménageaient, nourrissaient une espérance pareille. Un soir, que les deux dames revenaient de prière à Saint-Martin, la vieille dame, au bras de sa nièce, dont un grand voile couvrait les cheveux tressés et les belles joues, elles rencontrèrent Bonaccorso et Puccinelli, qui, par crainte l'un de l'autre, ne les abordèrent point. Quant aux autres cavaliers qui les saluaient respectueusement au passage, nul n'osait approcher ce trésor si bien gardé. Ces dames rentrèrent donc chez elles et se rendirent dans une vaste salle tendue de sombres tapisseries où un vieux domestique leur servit silencieusement le repas du soir, puis il alluma deux lampes suspendues au plafond. Madame Catherine se mit à lire dévotement un manuscrit de religion et Dianora tissa à la soie une tapisserie destinée au maître-autel de Saint-Martin. Pendant ce temps, Bonaccorso et Puccinelli se promenait devant l'église, s'entretenant à contre-cœur de choses étrangères aux sentiments qui les agitaient. Mais bientôt, et comme à leur insu, il se trouva qu'ils s'étaient avoué leurs secrets réciproques, quoique chacun d'eux se garda bien de le dire jusqu'à quel point leurs affaires étaient avancées, le premier avec la tante, le second avec la nièce. Enfin, ils résolurent de demander cette dernière en mariage l'un après l'autre. Si Puccinelli était refusé, Bonaccorso réussirait peut-être. Et dans tous les cas, il n'y aurait qu'un malheureux. Ils s'en remirent au sort de savoir lequel se présenterait le premier. Puccinelli gagna, et comme il était vêtu de la façon la plus élégante, il se rendit chez Madame Catherine de Castelnau, laissant son rival certain du peu de succès de cette démarche, par suite de la bonne intelligence qu'entretenait lui-même avec la vieille dame. Puccinelli n'était pas moins confiant dans l'amour de Dianora et se félicitait in petto de ce que le sort lui favorisait. Après beaucoup de difficultés de la part du vieux domestique, il fut admis dans la salle dont nous avons parlé déjà, laquelle devait être un jour le lieu d'une catastrophe si terrible. Madame Catherine reçut seule le jeune gentilhomme, car au grand chagrin de celui-ci, Dianora n'était point présente. L'austère dame inclina sa tête en béguinée en réponse aux salutations de Puccinelli, puis lui désignant un siège de la main, elle lui dit avec une froide politesse « Seigneur cavalier, que désirez-vous de moi ?» Puccinelli, qui avait arrondi par avance un beau discours, se sentit pris d'un si grand abattement de cœur qu'il ne put rien répondre, si ce n'est quelques mots sans suite où perçait clairement le trouble de son âme. Madame Catherine réitéra sa question. « Bien, madame, dit enfin Puccinelli, vous pouvez décider du malheur ou du bonheur de toute ma vie. Je viens vous supplier de m'être favorable. » « Mais vous vous trompez sans doute, seigneur, répondit Madame Catherine. Je vous connais à peine de vue, et j'ignore même votre nom. » Oh, cela était faux, mais la vieille dame voulait faire entendre au gentilhomme qui ne lui plaisait point, car elle devinait bien où il en voulait venir. « On m'appelle Pierre Puccinelli, madame. Ma famille est une des plus anciennes de Luc, et l'honneur de mon nom est sans tache. » Mais je n'ai garde d'en douter, seigneur cavalier. Apprenez-moi donc en quoi je puis vous servir. » « Mais madame, reprit Puccinelli d'une voix tremblante, vous me voyez comme consumé du plus violent amour pour la signora Diapola, votre belle et vertueuse nièce. Je vous le conjure à genoux de m'accorder sa main, si toutefois elle y consent. » Après avoir parlé de la sorte, il baissa les yeux avec confusion, se repentant déjà de sa témérité. « Seigneur Pierre Puccinelli, dit Madame Catherine d'une voix sévère, ma nièce n'est point en rage de se marier, et le fut-elle, j'ai décidé qu'elle ne serait qu'un seul gentilhomme de cette ville, lequel n'est point vous. Ma nièce vous rend grâce de votre offre honorable, mais elle ne peut l'accepter. » Ce disant, Madame Catherine se leva et fit une révérence solennelle à Puccinelli, qui comprit ce signal de sa retraite, et sortit, le cœur dévoré de colère et de jalousie. Mais au moment où il fermait la grande porte de la salle, une main légère s'appuya sur son bras, et une douce voix lui dit tout bas, « Ayez bon courage, Pierre, je vous aime. » Et je jure par mon salut que je n'appartiendrai qu'à vous. » Puccinelli fit un geste pour saisir la main qui l'arrêtait, mais Dianora s'était s'enfuit et il n'entendit plus rien. Partagé entre la joie et le chagrin, il quitta la maison Bonacorso, qu'il attendait encore devant Saint-Martin, et dès qu'il se fut rejoint, il dit à Puccinelli, avec un sourire de triomphe, « Eh bien, Pierre, as-tu réussi ?»« Non et oui, » répondit celui-ci. « Mais comment, que veux-tu dire ?»« Bonacorso, il faut que je tue un homme. »« Mais pourquoi cela ?» demanda l'autre avec une inquiétude non dissimulée. « Mais parce que Diavora est promise en mariage. » « Et, » dit Bonacorso en hésitant, « sais-tu le nom de cet homme ?» Puccinelli, qui le regardait en dessous depuis leur rencontre, reprit gravement, « Non, mais tu vas me le dire. Mais tu fous, j'en sais rien. » Puccinelli recula tout à coup, tira son épée et s'écria avec fureur, « Mais défends-toi, mauvais traître. Mais cet homme, c'est toi !»« Par Saint-Martin de Luc, » répartit Bonacorso, en dégainant à son tour. « J'aime mieux cela. Pourtant, je ne t'ai point trahi. J'ai loyalement pris les devants, et si Diavola me préfère à toi, je n'y puis rien. » « Mais tu mens, c'est moi qu'elle aime, elle me l'a dit. »« Ah, tu ne répéteras pas cela, calomniateur !» Et les épées se croisèrent. La nuit tombait, et les rares habitants qui passaient sur la place, loin de songer à mettre fin au combat, fuyaient au plus vite, de sorte que les deux gentilshommes purent en découdre à leur guise. Ils étaient également braves et expérimentés dans les armes et combattirent longtemps sans autre dommage que quelques égratignures aux mains et aux bras. Mais il arriva que Puccinelli glissa sur un pavé humide, ce qui donna l'avantage à Bonacorso. Celui-ci leva le bras pour en finir, et bien lui en eut pris s'il avait eu le don de lire dans le temps futur. Un bon sentiment arrêta son bras et dit à Puccinelli en reculant de quelques pas, « Allez, relève-toi, Pierre. À vrai dire, j'ai peut-être les torts à mon grain égard. J'aurais dû t'apprendre où en étaient mes affaires d'amour, mais que veux-tu ? La passion m'a emporté. » Puccinelli s'était relevé prestement et sans répondre un seul mot, il porta une si furieuse botte à Bonacorso que celui-ci, l'ayant paré à grand-peine, n'écouta plus que sa colère et rendit coup pour coup. Bientôt, Puccinelli fut atteint à la cuisse, puis à l'épaule, et chancela. Mais au moment où son adversaire allait profiter de cet avantage, il se fendit à fond et lui planta son épée dans la gorge. Le malheureux râla et se tordit sur le pavé, tandis que le meurtrier se tenait debout devant lui, comme épouvanté de son action. Enfin, le sentiment du danger qu'il courait en restant à Luc l'emporta sur la joie inquiète de cruel qu'il éprouvait à contempler son rival vaincu, et il prit la fuite en choisissant les rues écartées qui conduisait à la porte Saint-Pierre de Giglio du côté de Pise. Le vieux domestique de Madame Catherine, qu'on nommait Cecco, était sorti le grand matin pour faire les provisions de la journée, et il trouva le premier, Bonacorso étendu au milieu de la place Saint-Martin, nageant dans le sang et comme mort. Cecco, qui était dans le secret du mariage projeté entre le gentilhomme et sa jeune maîtresse, trouva rien de mieux à faire que d'appeler quelques passants à son aide et de transporter le corps chez Madame Catherine. Le mouvement fit revenir Bonacorso à la vie et eut au moins la consolation de recevoir les soins de la belle Dianora, qui se doutait guère que ce fût là l'œuvre de son amant. Peut-être même le sachant eût-elle prodigué les mêmes attentions aux blessés, car la douceur et la cruauté sont proches l'une de l'autre dans le cœur des femmes. Quoique ces sortes d'aventures ne fussent pas rares à cette époque, où toutes les villes d'Italie étaient autant de camps ouverts aux mille querelles suscitées par les factions incessantes qui se détruisaient l'une l'autre, celle-ci ne laissa pas de faire beaucoup de bruit, tant à cause de la considération générale dont on entourait les Cellini, que par le fait des belles qualités que chacun se faisait à reconnaître chez Bonaccorso. La blessure qu'il avait reçue n'ayant attaqué aucune partie vitale, il en fut quitte pour rester 3 mois au lit. En second lieu, comme il refusait obstinément soit générosité, soit dédain, de nommer son meurtrier, Puccinelli ne fut point poursuivi, mais l'ignorance des événements retint celui-ci durant tout ce temps à Pise, où il s'était réfugié. On juge bien que Bonaccorso mit à profit l'absence forcée de son rival. Madame Catherine, qui avait toujours aimé, l'accueillait à merveille, et Diane Bola elle-même écoutait en souriant les paroles passionnées qu'il lui débitait. Si bien qu'aussitôt sa complète guérison, il obtint ce qu'il avait joué au péril de sa vie. Le maître-autel de Saint-Martin de Luc vit célébrer le mariage de Signora Dianora de Castracini et du seigneur Bonaccorso de Cerani. Et au sortir de l'église, la jeune mariée jetait bien des regards furtifs autour d'elle, mais Puccinelli ne se prendra point. Nous ne nous chargerons point d'expliquer comment il se fit que Dianora eut si promptement oublié le serment fait à Puccinelli de ne jamais appartenir qu'à lui. Mais cette histoire n'est nullement de notre imagination, mais bien une fidèle narration d'événements véritables. La rumeur publique accusa Dianora de frivolité et d'inconstance, accusation dont elle ne démontra que trop la fausseté plus tard. Quelques personnes blâmèrent de sa docilité à obéir aux ordres de sa tante, mais ces personnes furent bientôt à même de reconnaître le peu de fondement de leurs reproches, quand il leur fut plus possible de s'illusionner sur le caractère indomptable de cette jeune femme. Nous sommes donc portés à croire qu'elle avait une grande haine pour Bonaccorso et qu'elle ne s'était unie à lui que par un raffinement de cruauté. Pourtant, il est possible que les belles qualités et la passion sincère de son mari eussent amolli son cœur, si Puccinelli ne se fût jamais représenté à ses yeux. Ainsi s'accomplit cette union qui devait être fatale aux deux rivaux. Bonaccorso, en homme fort amoureux de sa femme, l'entourait de 1000 attentions délicates. Ses moindres caprices étaient des lois pour lui. Tout le patricien de Luc était incessamment convié au fait que prodiguait le nouvel époux. Les jeunes cavaliers enviaient son bonheur, et Madame Catherine jouissait de son ouvrage en bonne parente qu'elle était. Un soir, fatiguée de danse et de propos galants, Dianora s'était accoudée sur une balustrade de pierre qui dominait la vue où s'élevait la maison des Cernani. Les tentures épaisses de sa fenêtre étaient retombées derrière elle et assourdissaient le bruit de la fête. Depuis quelques minutes, elle rêvait en silence, le front dans la main, quand une ombre sortit de l'angle d'une rue voisine et, s'avançant vers elle, s'arrêta devant la maison. D'abord, il y fit peu d'attention, mais la personne dont il s'agit écarta le manteau qui lui cachait la figure et s'écria d'une voix contenue « Ah, madame, qui aurait pensé que vous me trahiriez ainsi ?» La jeune femme se pencha vivement vers cette personne et reconnut Pierre de Puccinelli. Elle étouffa un cri de surprise et voulut se retirer aussitôt, mais il reprit d'une voix agitée. « Restez, dit Yanora, restez au nom de Dieu, et répondez-moi. Je sais ce qui me tient d'entrer dans cette maison maudite et d'achever le traître que j'ai manqué une première fois. » « Plus bas, Pierre, dit la jeune femme. Ah, c'est donc vous qui avez percé mon accord sur un coup d'épée sur la place Saint-Martin. Oui, c'est moi. Ah, que n'ai-je mieux frappé et plus à fond. Vous êtes tort, en effet, mais retirez-vous. Soyez demain de grand matin derrière le troisième pilier de la nef de Saint-Martin. » Cela dit, elle disparut derrière les tentures et Puccinelli s'éloigna. Dès cette heure, la destinée de Dianora fut décidée, car la vue de son mari avait réveillé dans son cœur toute la passion qui s'y était assoupie. Elle n'eut pas plutôt achevé le dessein de trahir son mari qu'elle commença à le mettre en exécution. Ici, le chroniqueur italien, auquel nous devons le récit de ce drame, fait la réflexion suivante, que nous traduisons littéralement. Il en est ainsi, comme chacun sait, des femmes de notre Italie. Celles de France sont gravement fausses et inconstantes. Celles d'Allemagne froides et apathiques. Celles d'Angleterre romanesques. Mais les Italiennes sont d'un sang plus irritable. Elles détestent, elles aiment avec fureur. Il est aussi dangereux d'être leur amant que leur ennemi. Il n'est pas d'homme qui ait la laine assez longue pour porter jusqu'au bout le poids de leur haine ou de leur amour. Du reste, les hommes sages doivent éviter les femmes, car en général, ce ne sont point de bonnes créatures. Telle est l'opinion de notre chroniqueur, nous la livrons au lecteur pour ce qu'elle vaut. Le lendemain matin, sous prétexte de se rendre au tribunal de la pénitence, Dianora sortit seule et gagna l'église Saint-Martin, aussi prochaine de la maison de son mari que de celle de sa tante, comptant bien rencontrer Puccinelli derrière le pilier qu'elle lui avait indiqué, ce qui n'en manqua pas d'arriver. L'église était déserte à cette heure matinale. Les deux amants purent s'entretenir en liberté et arrêter l'heure et le lieu de nouveau rendez-vous. Et au moment de quitter Puccinelli, Dianora lui dit « Ah, Pierre, qu'avez-vous fait? Si ce malheureux combat n'avait point eu lieu, vous auriez pu fléchir ma tante et nous serions unis. »« Chère dame, répondit Puccinelli, vous m'envoyez au désespoir, mais tout n'est pas perdu si vous m'aimez. » « Mais songez, reprit Dianora, combien je suis à plaindre. Ma vie tout entière n'est-elle pas enchaînée à un homme que je hais? La mort seule peut rompre mes nœuds. »« Ah, c'est à quoi je songeais, chère dame. Écoutez, fuyons cette ville. Allons cacher nos amours dans quelque autre pays. » Mais il n'est point de remède à nos maux. « Pierre, vous ne pouvez consentir à ce que je perde ma bonne renommée. D'autre part, notre amour serait coupable tant que Bonaparte Borlarconso vivra. » « Le traître, murmura Puccinelli, qui à ce nom sentit renaître toute sa colère. « Oh, il ne m'échappera point toujours. »« Voici l'heure de nous séparer, dit la jeune femme. « Adieu, Pierre. » Je vous aime. Adieu, chère dame. Je meurs d'amour pour vous. À demain soir. Ils se quittèrent, mais Puccinelli resta longtemps immobile et songeur à l'ombre du pilier, prenant soin toutefois de se couvrir la figure de son manteau, car il ne voulait pas être reconnu à Luc. De mauvaises pensées le travaillaient, et les paroles de Dianora avaient jeté le germe du crime dans son cœur. Nous saurions dire quelle bonne raison et lui m'avait donné pour justifier son mariage, Mais à coup sûr, elle avait eu l'art de tout rejeter sur Monacorso. De sorte que la haine de Puccinelli s'en augmenta de toute la douleur que ce mariage lui avait causée. Depuis son retour de Pise, il habitait, à l'insu de sa famille, une petite maison délabrée à l'extérieur, mais propre et commode au-dedans. Cette maison était située près de la porte Saint-Pierre de Tsigoli. C'est là que Dianora, grâce à ses mensonges multipliés, auxquels les femmes sont si habiles, vint le trouver le lendemain et nombre de fois encore. Bonacorso, tout entier aux premiers enivrements de son mariage, semblait avoir oublié son ancien ami. Cependant, comme il persécutait sa femme de sa tendresse et que depuis quelque temps elle lui témoignait presque de l'aversion, il commença de s'inquiéter de ses fréquentes sorties. Sans suspecter Puccinelli, dont il ignorait le retour à Lucques, plus que tout autre cavalier, il ne cessa donc pas de surveiller les démarches de Dianora. Mais il semblait que celle-ci eût à ses ordres un démon familier qui l'avertit des intentions de Bonacorso, car jamais les deux amants ne furent surpris en compagnie de l'un de l'autre. Le mari jaloux la suivit un jour jusqu'au seuil de la petite maison dont nous avons parlé, attendit quelque temps et dehors et entra soudain. Dianora était tranquillement assise au chevet d'une vieille femme malade ou feignant de l'être. Mais sans à penser, si elle se montra courroucée des soupçons injurieux de son mari, lequel lui jura, très honteux, qu'il ne douterait jamais plus d'elle. Sur ces entrefaites, les beaux jours étant venus, et toutes les familles nobles et riches de Lucques se retirant à la campagne, Bonacorso fit part à Dianora du dessein où il était de l'emmener dans un château qu'il possédait à 3 lieues de la ville, au pied de l'Apennin. Dianora résista longtemps sous différents prétextes, mais à la fin, craignant de corroborer les soupçons qu'elle avait excités dans l'esprit de son mari, elle donna connaissance de cet incident à Puccinelli et partit peu de jours après. Le château de Cerani, fortifié comme tous ceux de l'époque, s'adossait contre la montagne, mais sa tour principale surplombait les rochers du Serchio, torrent rapide de l'Apennin, et dont les eaux rapides roulaient à 50 ou 60 pieds de profondeur. Les fondements du château s'élevaient donc sur les bords de cet abîme. Or, les larges embrasures de la maîtresse de maison autour, non seulement l'œil embrassait le lit profond du torrent, mais encore, comme l'eau avait ruiné le rocher de ce côté, il était facile de laisser tomber un corps quelconque de la tour dans le gouffre. Ceci importe à la compréhension de ce qui va suivre. C'est là que Bonacorso conduisit Dianora. Toutes les distractions, tous les amusements imaginables lui furent prodigués. Tantôt c'était la chasse aux hérons dans les marais de la plaine, tantôt la chasse aux cerfs dans la forêt voisine. Bonacorso avait convié plusieurs seigneurs et dames de Lucques, croyant plaire à sa jeune femme. Mais rien ne faisait à la mélancolie de celle-ci, qui en était arrivée à ne pouvoir plus supporter les liens qui l'unissaient à Tchernani. Ce dernier, ne sachant à quelle cause attribuer la tristesse de sa femme, multipliait ses efforts, mais vainement. Cependant, une grande chasse eut bientôt lieu dans la forêt. Tous les hôtes du château y prirent part, ainsi que Dianora. On battit les bois de grand matin, et le cerf ayant été lancé, les cavaliers et les dames coururent à cheval durant tout le jour, de sorte qu'à l'approche de la nuit, Dianora se trouva fortuitement, ou plutôt, selon son secret désir, séparée de son mari et du gros de la compagnie. Elle rentra donc seule au château et s'enferma dans son appartement qui donnait sur le torrent, se disant fort malade devant ses serviteurs. Quelques minutes après, un homme sortit de l'ombre.
Nous ne savons si la chaleur de leurs sentiments fit qu'ils ne s'aperçurent pas de la fuite du temps, mais toujours est-il que Dianora fut prise d'une grande frayeur en entendant tout à coup le bruit de la cavalcade qui revenait au château, et bientôt après la propre voix de Bonaccorso frappant à la porte et demandant à entrer. Le premier mouvement de Puccinelli fut de se précipiter vers la fenêtre, mais Dianora, qui probablement voulait en finir, le poussa derrière son prie-dieu et ouvrit. Bonaccorso entra. Il jeta un regard involontairement inquisiteur autour de la chambre. Se laissant tomber sur un siège, il dit avec indifférence « Vous nous avez quitté bien promptement, madame. »
« Je m'étais égaré, » répondit Dianora. « La fatigue m'accablait et force m'a été de revenir seul au château. »«
Vous avez sagement agi. Pourtant, je regrette de ne vous voir pas accompagné, car les chemins sont peu sûrs par le temps qui court. »«
Je vous suis reconnaissant, Seigneur, mais je n'ai rencontré personne. »«
Vraiment ? J'aurais cru le contraire. »
Vous vous seriez trompé.
Non, tel n'est pas mon avis.
Mais que voulez-vous dire, Seigneur? Cette persistance est étrange. Quelle est votre pensée?
Je ne vous comprends pas. Madame, dit froidement Bonaccorso, il y a un homme ici. Dianora le regarda fixement et répondit.
En êtes-vous bien certain?
« Écoutez, continua Bonaccorso sans s'émouvoir, j'ai remarqué que vous quittiez la chasse à dessein. Je vous ai suivi et j'ai vu un homme monter ici par une échelle de corde. Ce fait m'a expliqué clairement ce que votre conduite à Luc avait d'obscur pour moi. J'ai pris aussitôt une résolution inébranlable. Nul ne m'a vu entrer au château. » Je suis venu dans cette tour par un passage qui n'est connu que de moi. Nous sommes donc seuls, madame. Que votre amant se montre, s'il n'est pas un lâche. Un de nous deux doit mourir et sera jeté dans le Sertio. Que je succombe ou que je triomphe, vous serez délivré de ma vue. Car dans ce dernier cas, j'ai l'intention d'aller servir le roi Philippe de France et de fuir l'Italie pour jamais. Dianora ne répondit rien, mais en ce moment le prie-dieu fut repoussé et Puccinelli se dressa devant Bonaccorso, pâle de rage et l'épée à la main. Ah, « C'est toujours toi, Pierre, » dit Bonaccorso avec calme. « Oui, voici ta dernière heure, » murmura Puccinelli. « Défends-toi. »« Ma cause est sainte et juste, Pierre, et tu as deux crimes sur la conscience. » Un premier, meurtre, et l'adultère. Ne trembles-tu pas d'affronter le jugement de Dieu?
Je tremble que tu ne m'échappes, Bonaccorso.
En garde donc, et que Dieu protège le bon droit.
Les deux gentilshommes s'attaquèrent. Ce ne fut point d'abord une lutte aveugle. Leur haine mutuelle faisait qu'ils ménageaient leurs forces. Habiles qu'ils étaient, maîtres d'eux-mêmes et sachant qu'une mort certaine serait le prix d'un moment d'oubli ou de précipitation, ils suivaient d'un œil calme et vigilant les rapides mouvements de leurs épées. Les coups et les parades se succédaient avec promptitude, mais avec toute la science qui eût été déployée dans un combat à armes courtoises. Cependant, ce sang-froid ne pouvait durer. Une atteinte légère que reçut Puccinelli, dont le caractère était plus emporté que celui de Bonaccorso, tira le premier, celui-ci de sa réserve prudente. Il engagea plus vivement le combat et toucha Bonaccorso à l'épaule.
Mais la parade tardive et d'autant plus violente de ce dernier brisa l'épée de Puccinelli par la moitié. Le gentilhomme à demi désarmé fit un bond en arrière. Tchernami s'arrêta un instant et lui dit « C'est le jugement de Dieu, Pierre. Prépare-toi à mourir. » « Viens donc !» répondit Puccinelli avec un cri féroce. « Tout n'est pas fini !» La lutte recommença en silence, mais avec fureur. La longue épée de Bonaccorso frappa 10 fois Puccinelli, qui rugissait de rage. Aucune de ses blessures n'était cependant assez grave pour l'abattre. Le désespoir le prit à la gorge, le sang lui obscurcit les yeux. Il se précipita tête baissée, s'enferra le bras droit et plongea à 2 reprises le tronçon de son arme dans la poitrine du malheureux Bonaccorso, qui expira sur le champ. Durant toute la lutte, Dianora était restée immobile, pâle et les bras croisés dans un coin de l'appartement. Mais dès la mort de son mari, elle s'élança vers son amant qui chancelait, baisa sa main sanglante et lui dit avec un cri de triomphe et d'amour « Pierre, Pierre, nous sommes libres !» Le corps de Tchernami fut jeté dans le torrent et les eaux le roulèrent sous les rochers car il ne reparut point. Le sang qui tachait le parquet fut lavé avec soin et les blessures légères de Puccinelli pansées. Puis il retourna secrètement à Luc, selon le désir de Dianora, pour y attendre les événements. Quant à cette femme, quoiqu'elle ne fût pas sans une grande perplexité d'esprit, elle eut l'audace d'interroger le lendemain tous les gens du château sur le sort de son mari. Celui-ci avait dit vrai, nul ne l'avait revu. Les recherches faites dans la forêt furent inutiles, comme il était naturel. Alors Dianora feignit une grande douleur et finit par revenir à Luc, où elle excita la pitié de tout le monde. Elle quitta la maison de son mari et habita de nouveau celle de Madame Catherine, qui, ne s'occupant plus guère que de ses devoirs religieux, la laissa parfaitement libre de ses actions. Dieu sait si elle en profita. Jamais deux amants ne s'étaient aimés d'une plus furieuse amour. La passion prit même le dessus sur la prudence. Et 2 mois s'étaient à peine écoulés depuis la disparition de Bonaccorso, que toute la ville de Luc savait que Puccinelli était l'amant de Dianora. Cela causa un grand scandale et fit naître de terribles soupçons. Cependant, à défaut de preuves, les meurtriers ne furent point inquiétés. Bonaccorso laissait un frère plus jeune de quelques années alors au service de la seigneurie de Venise. On le nommait Lorenzo de Tchernami. Puccinelli le connaissait, mais Dianora ne l'avait jamais vu. Ce qui devait arriver arriva. Lorenzo apprit le malheur qui frappait sa famille, en même temps que les soupçons qui planaient sur sa belle-sœur, dont la liaison avec Puccinelli était connue. Le jeune cavalier quitta Venise et vint à Luc. Ne voulant point frapper des innocents, il fit des perquisitions nombreuses qui ne l'éclairèrent point sur le destin de son frère. Il se préparait à retourner à Venise lorsqu'il reçut, on ne sait d'où ni de qui, le billet suivant. « Je meurs assassiné par Puccinelli et Dianora. Tue l'homme, épargne la femme. Elle est indigne de mourir de ta main. Ton frère, Bonaccorso. » Lorenzo attendit la nuit, prit son épée et alla se promener sur cette même place Saint-Martin où avait eu lieu le premier combat des 2 rivaux. Puccinelli avait l'habitude d'y passer toutes les soirs en se rendant chez Dianora. À l'heure accoutumée, il parut à l'angle de la place qui était déserte comme toujours vers le soir. Lorenzo alla à sa rencontre et lui dit « Seigneur Pierre de Puccinelli, on me nomme Lorenzo di Tchernami. Vous avez tué mon frère. me faut le venger. Êtes-vous prêt ?»«
Seigneur Lorenzo, répondit Pulcinelli, tel est votre devoir, je suis tout à vous. »«
Notre combat ne peut pas avoir lieu ici, seigneur. Il se pourrait qu'on nous interrompît. Suivez-moi, je sais un endroit sûr, non loin d'ici. »
Cela dit, il marcha en avant et conduisit son adversaire par des rues détournées et derrière les remparts de la ville. Le ciel était pur et brillant, la campagne silencieuse. Le combat s'engagea. Nous n'en décrirons pas les péripéties. Pulcinelli succomba. Lorenzo lui coupa la tête, qu'il cacha sous son manteau, et rentra dans Luc en se dirigeant vers la maison de Madame Catherine, où demeurait Dianora. Elle était assise dans la vaste salle où s'était écoulée sa jeunesse, belle et pâle comme une statue de marbre. Sa tante étant malade, s'était retirée de bonne heure. Elle attendait Pulcinelli, qui tardait plus que de coutume. Ce retard l'inquiétait. Nous ne saurions dire si le remords de son crime travaillait le cœur de cette femme dont les passions étaient si ardentes, mais une sombre tristesse se lisait sur son visage, si beau et si doux. On eût dit que le pressentiment de ce qui allait suivre traversait son esprit. L'impatience la força de se lever. Elle fit plusieurs pas avec une action fiévreuse. Puis elle entendit le pas d'un homme dans l'escalier et courut à la porte avec un sourire de joie. Un étranger entra. Comme il était couvert d'une large et long manteau, elle crut que c'était Pulcinelli. Elle lui dit tendrement, « C'est mal à vous, Pierre, d'être venu si tard. »
« Ce n'est pas Pierre, dit Pulcinelli, répondit l'étranger en se découvrant la figure. C'est moi. »
« Et qui êtes-vous, seigneur ? » s'écria-t-elle en reculant avec effroi.
« Je suis Lorenzo de Cenami, le frère de votre époux, madame. J'ai appris le malheur commun qui nous a frappés tous deux, moi dans mon amitié fraternelle et vous dans votre amour. Je viens vous saluer et pleurer avec vous. »
Au premier mot de Lorenzo, Dianora, se sachant coupable, avait frémi d'épouvante, mais les dernières paroles du nouveau venu l'avaient rassurée. Elle porta la main à ses yeux et feignit de pleurer en disant « Oh, Seigneur Lorenzo, c'est un bien grand malheur, en effet. »
« Sans doute, madame, mes chères sœurs, aussi ai-je cru que la vue d'un frère qu'a si vivement aimé notre Boccaccio serait un adoucissement à vos peines cruelles. »
« Vous avez bien jugé, seigneur, et je vous suis reconnaissante de m'avoir point oublié dans ma détresse.
Mais pourquoi vous êtes-vous retirée de la maison de mon frère, chère sœur ? » ?»«
Oh, elle me rappelait trop cruellement, celui que je pleurerai toujours, seigneur Lorenzo. »
« Ne seriez-vous pas désireuse de n'avoir savoir jusqu'à quel point il vous aimait ? J'ai à vous faire un présent dont il se réjouira dans sa tombe lointaine, si toutefois il ne vit plus. »
« Oh, Seigneur, qu'est-ce donc ? Donnez, donnez, ce souvenir me sera bien cher. »
« Le voici, » dit Lorenzo, en posant sur les genoux de Dianora la tête sanglante de Pulcinelli. Elle prit cette tête à deux mains, pâle, égarée, ne pouvant parler, la reconnut, poussa un horrible cri de désespoir et tomba à la renverse comme un cadavre. Lorenzo lui jeta un long regard de haine et de mépris et sortit. On ne le revit plus à Luc, car il se retira à Venise, où il mourut quelques années après. Ainsi finit la chronique de la belle Dianora de Castellanacci. Elle se retira chez l'un des parents de son père, nommé Antonio de Castracani, et qui était chanoine de l'église Saint-Michel. Comme elle était enceinte et que le mépris public la poursuivait, son parent lui céda une petite maison de campagne située à 1 mile de Luc. C'est là qu'elle mit au bourg le 18 mars de l'an de grâce 1281, Antelminelli, construction de Castellarni, qui, joignant plus tard à son génie naturel les passions sans frein de sa mère, devint seigneur de Luc, dominateur de Pise, lieutenant de l'empereur Frédéric de Bavière et le plus mortel ennemi de la République florentine. Ce fut un grand politique et un grand capitaine. Sans pitié pour ses ennemis, soupçonneux et loyal, plein d'astuces et de grandeur d'âme, il régna glorieusement et mourut après une victoire.
Des rochers du Sercio, une échelle de corde lui fut jetée par Dianora et il disparut bientôt dans l'intérieur de la tour. C'était Pierre de Puccinelli.